Mais bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Il y a 2 semaines, on a vécu un temps spécial, on appelait ça la semaine universelle de prière. C'est un mouvement, un événement qui est impulsé par nos églises protestantes, où on a essayé de se retrouver autour de différents moments et de partager des temps de prière, d'intercession commune. On a eu 3 temps et c'était chouette. Je pense que ceux qui sont impliqués ont apprécié. Et normalement, cette semaine, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Mais je n'ai rien préparé. Du coup, on ne fera rien de spécial. Désolé Alain qui attendait ce moment-là. Normalement, c'est un temps qu'on vit beaucoup plus dans les relations œcuméniques. Ça veut dire quoi, œcuménique? C'est au sein même de la grande famille chrétienne, il y a des cousins et des cousines, donc on a les catholiques, on a les orthodoxes, on a tout ça. Et dans cette semaine, on essaye de se rapprocher un peu pour vivre cette unité du corps du Christ, parfois un peu malmenée. Mais bon, cette année, le prêtre a changé, donc je ne le connais plus, il faut que je fasse sa connaissance. Et puis, le grand temple, ils sont un peu en effectif réduit, ce qui fait que quand j'impulse rien, moi, ben, il n'y a rien qui se fait, et cette année, j'ai pas pensé. Voilà. Mais quand même, pour nous rapprocher de l'Église universelle, on va lire le texte du jour. Donc chaque dimanche, en fait, il y a des textes qui sont proposés à toutes les églises chrétiennes. Aujourd'hui, il y en avait trois lectures, dans Ésaïe, Matthieu et 1 Corinthiens. Et on va lire le texte de 1 Corinthiens. Donc ceux qui veulent suivre dans leur Bible, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens, donc c'est le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, et ensuite 1 Corinthiens. Et avant de lire la parole, on va prier. Seigneur, nous voulons nous plonger dans ces écritures saintes et inspirées. Tu les as conduites par ton esprit. Les auteurs avaient les yeux braqués sur toi et nous croyons qu'ils sont fiables pour nous conduire dans notre vie spirituelle avec toi. Que maintenant, Seigneur, tu disposes nos cœurs à recevoir et que tu disposes mes lèvres à parler. Amen. Alors, 1 Corinthiens, on va lire les versets 10 à 13 du premier chapitre. Frères et sœurs, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis en ayant la même façon de penser et les mêmes convictions. En effet, mes frères et sœurs, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. Voici ce que je veux dire. Parmi vous, l'un déclare « Ah, moi, j'appartiens à Paul !» L'autre « Moi, à Apollos !» Et encore un autre « Moi, à Pierre !» Mais moi, j'appartiens au Christ. Pensez-vous qu'on puisse diviser le Christ? Est-ce Paul qui est mort pour vous? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Et je lis le verset 17. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver la croix du Christ de son pouvoir. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, un petit peu de contexte. L'épître de Paul aux Corinthiens. Paul, il connaissait bien l'église de Corinthe. C'est une église que lui-même, il avait fondée. Il était allé dans cette ville où jamais aucun chrétien n'avait existé. Enfin, il était le premier à parler de Jésus, qu'il était ressuscité. Et des personnes ont été touchées par son message et sont devenues les premiers chrétiens de Corinthe et la première église de Corinthe. Puis le temps passe et puis un autre enseignant arrive. Parce que Paul, il reste un an, puis il part. Et puis il y a un autre chrétien qui vient et qui passe et puis qui veut fortifier ces chrétiens. Il s'appelle Apollos. Il enseigne pendant quelques temps. Puis il y a Pierre, le fameux Pierre de Jésus, quoi, qui casse aussi. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chacun a son préféré. Si ça en reste là, ça va. Mais on finit par dire, non, moi je suis de l'école 2. Et on n'est plus des chrétiens, mais avant d'être des chrétiens, on est des Pauliniens ou des Apollociens ou je sais pas quoi. Et l'Église, en fait, commence à se diviser parce qu'on ne s'identifie plus à Jésus, mais on s'identifie à des enseignants de Jésus. Et ça fait beaucoup souffrir, malheureusement, l'Église. Alors, nous, les chrétiens, on est des champions, les protestants particulièrement, des champions de la division. Connaissez la blague du chrétien qui est sur une île déserte? Là, c'est un protestant sur une île déserte. Il s'est échoué, en fait, c'est un naufragé. Puis il passe des années là, puis au bout d'un moment, il y a un bateau qui aperçoit ses signaux de fumée et qui va pour le sauver. Tellement content de voir du monde, mais avant de partir, il leur fait visiter son île, l'endroit où il pêche ses poissons, l'endroit où il va récupérer de l'eau douce. Et à un moment, ils arrivent à son campement où ils voient trois tentes. Il dit, ben voilà, ça c'est la tente où je dors, et la tente d'à côté, c'est mon église. Et il y a un des marins qui dit, mais et la troisième tente alors? Il dit, non, ça c'est l'église où j'allais avant. Voilà, on est capable de se fâcher avec pas grand-chose et de quitter nos églises pour pas grand-chose. Quelles sont les causes de la division chrétienne? Les doctrines entre catholiques, orthodoxes. On ne comprend pas ce que les catholiques vivent avec les icônes, on ne comprend pas ce que les. Ou avec les. Avec le pape, avec la Vierge Marie, ces choses-là. Division parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, sur le baptême, quelle quantité d'eau, à quel âge. Des fois, c'est la musique. C'est trop plomb-plomb. Ou alors, au contraire, c'est trop fort. Parfois, j'ai pas de place dans cette église pour mes enfants. C'est pas la bonne version de la Bible qu'ils lisent. Vous connaissez la liste, vous pouvez la continuer autant que vous voulez. Et là, vous vous attendez à ce que je vous dise. Mais toutes ces raisons sont secondaires. Il faut passer par-dessus ces raisons-là et regarder à Jésus, c'est le plus important, et ainsi de suite, il est mort pour nous, blablabla. Mais non. Qu'est-ce que dit Paul? Paul dit, frères et sœurs, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis en ayant la même façon de penser et les mêmes convictions. Autrement dit, Paul n'est pas en train de nier les différences ou même de dire qu'il faut les ignorer, il faut les mépriser. Si, il dit, mettez-vous d'accord. C'est qu'il considère bien que nous sommes en désaccord. S'il dit travailler, avoir la même façon de penser, c'est qu'il part bien du principe que nous n'avons pas la même façon de penser. Mais ce que Paul pointe du doigt, ce que Paul souhaiterait voir dans le cœur des Corinthiens, c'est le désir, c'est l'envie d'être unis. Est-ce que vous avez envie d'être unis? Au-delà de toutes nos bonnes raisons d'être divisés, est-ce que nous souffrons de la division? Est-ce que nous soupirons après une Église de Christ réconciliée? Considérons Jésus. A-t-il cherché la réconciliation avec des Samaritains, avec des Galiléens? Vous savez, les Galiléens, c'était pas le plus bas niveau de la spiritualité juive, mais pas mal quand même. Le Samaritain était encore au-dessous. Mais pour les bons juifs de la capitale de Jérusalem, il y avait le Samaritain au-dessous du fond, et puis juste au-dessus, il y avait le Galiléen. Et plus on se rapprochait de la capitale, et plus on devenait pur spirituellement. Et Jésus a commencé son ministère au bout du bout. A-t-il cherché la réconciliation avec ses Samaritains et ses Galiléens à partir du moment où eux étaient prêts à reconnaître leur tort? Si vous êtes prêts à reconnaître vos torts, si vous êtes prêts à reconnaître que j'ai raison, parce que avec Jésus, Jésus a toujours raison, donc c'est pas facile, mais a-t-il tendu une main secourable et visité uniquement celles et ceux qui étaient favorables à Jésus? N'a-t-il pas guéri 10 lépreux, dont 9 d'entre eux ne sont pas venus le remercier? N'a-t-il pas mangé chez des pharisiens qui plus tard ourdiront sa mise à mort? N'a-t-il pas lavé les pieds de Judas qui allait le trahir? Avec qui a-t-il cherché la réconciliation? La liste serait très très longue. Et avant toute chose, avant toute repentance, avant tout pardon, avant toute guérison, chez Jésus, il faut voir cette réalité. Lui, il accepte de rencontrer qui veut le rencontrer, qui croise sa route. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que chez Jésus, il y a d'abord le désir d'aimer avant de chercher à avoir raison. Jésus veut d'abord aimer avant d'avoir raison. J'insiste parce que je pense que ce n'est pas naturel chez nous. Il y a des tas de moments où, en fait, quand quelqu'un nous renvoie qu'on a tort, on a l'impression qu'il ne nous aime pas. Que si quelqu'un dit qu'il est en désaccord avec nos opinions, il nous rejette tout entier. Alors qu'il manifeste juste que cette idée-là que je suis en train de dire, il n'est pas d'accord avec cette idée. Ce n'est pas toute ma personne qui rejette. Jésus, lui, veut d'abord aimer avant d'avoir raison. Il sait que avoir raison sans aimer, c'est aussi sage que de hurler sur un enfant pour demander qu'il se calme. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que ça ne porte pas de fruits. On va obtenir le calme. Mais on n'aura pas de bons fruits. Et lui-même, quand il sera grand et qu'il voudra obtenir le calme auprès de ses enfants, vous connaissez la suite. Et la Bible enseigne que celles et ceux qui se sont laissés aimer par Jésus, dans cet amour qu'ils ont reçu, ils ont compris qu'ils avaient tort. Ils ont reçu cette lumière de l'Évangile et se sont convertis. Donc je répète, Jésus veut d'abord aimer avant d'avoir raison. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à savoir, bon alors, toutes les différences, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on s'aime et puis le reste, on l'oublie. Prenons un exemple concret. Il y avait un jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Par la loi !» Donc il commence à lui citer les 10 commandements. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, honore ton père et ta mère, blablabla. » Et le jeune homme dit « Mais moi j'ai déjà fait tout ça depuis ma plus tendre enfance. » Et le texte dit « Jésus le regarda et l'aima. » Et lui dit « Ah, il te manque une chose alors, va !» Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Et là, le jeune homme s'assombrit, il devient tout triste à cette parole et il s'en alla parce que il avait de grands biens. Autrement dit, il était blindé de thunes. Et du coup, même si Jésus l'aime, leur désaccord sur le sens de la vie demeure. Jésus ne l'a pas aimé à condition que ce jeune homme soit d'accord avec lui. Jésus ne l'a pas aimé en sachant que, à partir du moment où Jésus t'aime, pof, tu te convertis automatiquement. Non. Mais il donne son amour, quand bien même, parfois, ça fait flop. Quand bien même, parfois, la personne n'est pas émerveillée ne reconnaît pas ses torts. Aimer ne sous-entend pas être d'accord, mais je crois fermement que dans l'amour naît l'accord. Considérons nos vies. Il y a certainement dans votre entourage, dans notre entourage, ça me concerne moi aussi, des gens qui ne partagent pas nos convictions. Vous avez certainement des débats politiques des fois à table, ou peut-être, au contraire, vous les évitez. Des personnes qui ne partagent pas votre foi, votre façon de vivre, de voir la relation au travail, à l'argent, l'éducation des enfants, je ne sais pas. Bref. Pourtant, ils font partie de votre vie et vous n'êtes pas d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'ils puissent faire partie de votre vie tout en n'étant pas d'accord? N'est-ce pas l'amour, l'affection, les liens qui vous unissent? Je connais cette église maintenant depuis à peu près 6 ans et je vois que beaucoup de gens viennent de milieux chrétiens différents. Et que ce n'est pas parce qu'ils ont fréquenté cette église pendant 10, 15, 20 ans que leurs origines se sont mélangées dans un espèce de grand flou homogène. Ils gardent leurs convictions. Mais ils s'aiment tellement entre chrétiens, ils se connaissent depuis tellement longtemps ici que, en fait, ils sont capables de cohabiter dans leurs convictions différentes. Parce qu'ils s'aiment. Et ils ne se tapent pas dessus. Jésus choisit d'aimer avant d'avoir raison. Avoir raison, ça peut être une bonne chose. Mais ça peut servir à rien du tout aussi. Savoir piloter un avion peut être utile, mais je ne peux pas sauver cet appareil qui est en train de s'écraser si je ne suis pas à bord de l'avion. Si ce couple que je fréquente, que je connais, est en train de s'écraser en flammes et que je ne l'ai pas construit une relation d'affection, de confiance avec eux, comment pourrais-je me porter à leur aide? Si je suis pasteur et que je n'arrive pas à vous visiter, à créer un lien avec vous, le jour où vous aurez des problèmes, vous n'irez pas me voir. Et je comprends. S'il n'y a pas de confiance. C'est pour ça qu'il faut m'aider. T'es pas venu nous voir cette année. Mais oui. Manifeste l'amour, c'est toujours bon. Avoir raison, c'est parfois bon, puis parfois ça sert à rien. Manifester de la bienveillance, c'est toujours bon. Manifester l'amour est toujours bon, et c'est encore plus beau et plus grand de manifester l'amour quand celui-ci n'ignore pas les difficultés, n'ignore pas les différences, n'ignore pas les désaccords, au contraire. L'amour est grand quand il se pose comme cadre dans lequel nous allons traiter ces disputes, ces injustices, ces incompréhensions, ces peurs et ces blessures. Deux passages. Un premier tiré de 1 Corinthiens, chapitre 13, vous le connaissez. Alors, on le sort au mariage, c'est chouette. Mais il va bien plus loin que la simple question du mariage. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une pièce de bronze, bing, qui résonne. Une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler comme un prophète, quand la science de tous les mystères et toutes les connaissances même me seraient révélées, et quand j'aurai toute la foi au point de transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout et il endure tout. Il y a un deuxième texte. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, où Paul dit « Car Dieu était caché dans le Christ Jésus pour réconcilier le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, mais mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc, nous, chrétiens, les ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise en disant « Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Alors, allez-y maintenant, il n'y a plus qu'à aimer. Hop, c'est facile. Non, certainement pas. Il y a peut-être ces relations brisées dans votre vie depuis 20 ans. Il y a peut-être des divisions dans votre vie. Vous avez été élevé dedans. Vous savez, des fois, on ne choisit pas le club de foot qu'on va supporter. C'est la famille qui choisit pour nous. Des fois, on ne choisit pas d'être en relation avec cette tante ou pas. C'est la famille qui choisit pour nous. Des fois, il y a des blessures qui nécessitent que nous guérissions d'abord, avant toute autre chose, avant d'envisager une quelconque réconciliation. Parce que se réconcilier avant d'être guéri serait s'exposer à retomber sous le coup de relations toxiques ou mauvaises. Donc ce n'est pas une prédication qui veut nous exhorter à Yaka Faucon, mais de garder à l'esprit d'abord aimer et ensuite avoir raison. D'abord aimer et ensuite avoir raison. Que la discussion, le fait de tomber d'accord, se vit dans un cadre d'amour. Et c'est ce que Paul, je pense, souhaitait voir chez les Corinthiens, ce désir d'être unis, cette envie d'être unis. Parce que nous avons tous été sauvés par Jésus pour former une famille. Nous avons été arrachés d'un monde de compétition, d'un monde de rivalité, d'un monde où on nous encourage à marcher sur la tête des autres pour arriver au sommet, pour être plongés dans un royaume où il n'y a plus cela. Ce n'est pas pour le reproduire et le recommencer. Alors voilà, je vous laisse avec cette parole, cette phrase choc. Jésus commence par aimer pour ensuite montrer en quoi il a raison. Et Paul de nous dire que quand il a annoncé l'évangile, il n'a pas cherché à le faire avec la sagesse humaine, les raisonnements, les super arguments. Il a juste dit, en fait, je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Et ce quelqu'un qui a vaincu la mort, il a sauvé ma vie. Et il peut sauver la tienne. Quoi que tu aies fait, quelle que soit l'estime que tu as de toi-même, il est mort pour toi et il veut te sauver.